Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et on commence d'emblée avec les changements qui ont impacté la plus grosse plateforme publicitaire au monde, j'ai nommé Google. Et on enchaîne par la suite avec une présentation d'un projet interne dans lequel on va tout documenter. Bonne écoute! Les nouveautés Google Ads. L'an dernier, les marketeurs Google Ads ont été pris d'une nouvelle qui pouvait bouleverser leur structure des campagnes search à compter de juin 2022. Les annonces responsives sur le réseau de recherche deviennent obligatoires, bannissant du même geste la possibilité de créer ou modifier les annonces textuelles grand format à la même date. Certains ont immédiatement adopté la tendance et d'autres ont attendu jusqu'à aujourd'hui pour s'y mettre. Que vous soyez dans l'une ou l'autre de ces catégories, regardons ensemble aujourd'hui les changements que cela implique dans la création d'annonces Google. Premièrement, soyez rassurés, vos annonces standards continueront d'être actives. Vous pouvez toujours voir les données qui leur sont associées, ainsi que les mettre sur pause et les réactiver au besoin. Ceci dit, si vous avez besoin de lancer de nouvelles annonces ou de changer les angles rédactionnels, vous n'aurez pas le choix de passer par une Responsive Search Ads que nous nommerons RSA. Pour passer au mieux cette transition de format, nous vous recommandons vivement, si ce n'est pas déjà le cas, d'avoir au moins une RSA par groupe d'annonces. La manière la plus simple pour gagner du temps est d'analyser les résultats et les tests de rédaction sur vos annonces standards et de combiner les meilleurs titres et les descriptions pour créer votre première RSA. Remettons les RSA dans leur contexte afin de les utiliser à leur plein potentiel. Au lieu de fournir 3 titres et 2 descriptions qui apparaissent dans l'ordre auquel vous l'avez inscrit, vous soumettez jusqu'à 15 titres et 4 descriptions. Parmi ce choix, Google vient combiner le tout et trouve les associations gagnantes. Si, de prime abord, la théorie est prometteuse, nous sommes vite confrontés à 2 enjeux. De 1, l'analyse de test pour déterminer quelle approche ou quelle angle fonctionne le mieux pour vous. Et de 2, le contrôle du message, surtout si vous voulez vous assurer qu'un certain titre soit visible dans le code promotion, par exemple. Pour le premier, nous perdons effectivement des métriques d'analyse avec le format. Au niveau de l'annonce, si nous pouvons connaître toutes les métriques de suivi classique, donc le taux de clic et le taux de conversion par exemple, il n'est pas possible d'avoir ces données segmentées par texte soumis. La seule chose dont nous disposons lorsque nous voulons analyser ces mêmes textes, ce sont les impressions. On doit donc supposer que plus il y a d'impressions, plus Google voit le texte comme un texte performant. Néanmoins, il est possible de tester des annonces et voici 2 manières de le faire. De 1, créer des variations d'annonces à l'aide de l'outil test. Fastidieux, mais ça fonctionne si vous voulez travailler la performance d'annonces génériques sur l'année et que vous avez du temps à dédier à ces tests. Et de 2, une autre solution, avoir plusieurs annonces RSA dans le même groupe. Sachez que vous ne pourrez pas posséder plus de 3 RSA par groupe. Soyez donc stratégique. Chez Pure Commerce, nous aimons avoir au moins 2 RSA à la thématique différente dans nos campagnes génériques. Cela nous permet de faire une pierre 2 coups. A, déterminer quelle thématique et quel angle rédactionnel fonctionne le mieux. Et B, à l'intérieur de cette thématique, voir quels sont les incitatifs à l'action et les textes que Google privilégie. Pour ce qui est du contrôle de l'affichage des annonces, hélas, les pertes sont lourdes. Mais avec un peu d'ingéniosité, il est possible de travailler en accord avec le format. Avant ce changement, nous étions capables de maîtriser presque à la lettre près l'allure finale des annonces. Aujourd'hui, on doit adapter un peu la manière dont nous écrivons les campagnes. Gardez votre objectif en tête et ne mélangez pas les incitatifs à l'action. Par exemple, vous êtes un e-commerce. Évidemment, vous voulez vendre en ligne, mais vous avez aussi une stratégie d'acquisition de email en place. L'erreur à éviter est d'avoir des titres comme « Acheter en ligne » ou « Télécharger notre guide » au sein de la même annonce. Créer une annonce axée sur la vente et une autre sur l'obtention de courriels si c'est pertinent avec les intentions des usagers ou pour vos conversions. Puisque Google associe librement tous les textes que nous lui transmettons, il peut être difficile d'avoir exactement le message que nous voulons en ligne. Notamment lors de promotions, dans ce cas de figure, il est essentiel pour la campagne que les titres mentionnant la promotion soient visibles. Pour ce faire, Google nous donne la possibilité de figer des titres ou des descriptions. En figeant un texte, nous indiquons à Google si nous voulons que le texte soit obligatoirement visible en première, deuxième ou troisième position. Attention ici, d'une manière générale, Google conseille d'utiliser cette fonction seulement s'il est nécessaire faire. Si vous avez des annonces génériques, vous devriez laisser Google faire son travail dans la plupart des cas. Mais voici deux utilisations possibles de l'option « épingler ». Épingler du texte, disons, sur un titre en deuxième position pour assurer sa visibilité. Afin de contrarier le moins possible Google, nous vous conseillons d'épingler plusieurs textes qui ont la même fonction afin de laisser un peu de marge de manœuvre à Google. Par exemple, vous tenez absolument à ce que votre vente éclair soit visible en deuxième position. Alors, vous pouvez épingler simultanément des titres comme « moins 50% sur tout le site »,« rabais d'été en exclusivité » et « économiser pendant 48 heures », par exemple. Tous mettent en avant votre promotion et Google a le choix, donc tout le monde y gagne. Vous pouvez aussi décider de créer un semblant de structure en épinglant 5 titres en position 1, 5 autres en position 2 et les 5 derniers en position 3. Ici, vous vous assurez une certaine cohérence de lisibilité à travers toutes vos publicités. Finalement, terminons avec quelques bonnes pratiques à garder en tête en tout temps lors de la création de vos RSA. Toujours avoir au moins une annonce dont le score d'efficacité est satisfaisant ou excellent par groupe d'annonces. On évite de changer les annonces plusieurs fois par mois, même si c'est pour des promotions. Les RSA demandent du temps pour déterminer les bonnes associations. Si vous changez trop d'annonces, c'est vos performances qui en seront impactées. Travaillez à inclure vos mots-clés dans la rédaction de certains de vos textes et descriptions. Ne vous répétez pas, sinon votre annonce deviendra redondante par association. Et jouez sur la longueur de vos textes et proposez des textes courts et d'autres plus longs. C'est tout pour cette chronique de présentation du nouveau format obligatoire des annonces Search sur Google Ads. D'autres conseils vous attendent sur Commercialite. Vous pouvez le télécharger facilement avec les notes de l'émission. On passe à la suite. Chez Pure Commerce, on aime être sur le terrain. À chaque mois, on aide des dizaines de commerces en ligne à devenir des commerces élites. Maintenant, on aime également se mettre dans la peau de nos clients et comprendre quelle est la réalité d'un propriétaire de boutique en ligne. En janvier dernier, on a donc fait l'acquisition d'une belle boutique vendant des accessoires pour la maison. On a donc décidé de documenter de A à Z le processus de commercialisation avec vous aujourd'hui. Bonne écoute! Bienvenue à tous au podcast sur Commercialite. Aujourd'hui, on a un épisode très spécial et un invité également très spécial. Je suis en compagnie de mon collègue, le directeur marketing chez Pure Commerce et également chez J7 Media. Antoine Dalmas est avec moi aujourd'hui. Comment ça va, Antoine?
Salut Antoine, je pensais qu'on allait parler de social selling, mais du coup non, c'est Commercialite aujourd'hui.
Commercialite également, pour les gens qui ne le savent pas, on a un autre podcast qui se nomme Social Selling, si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, où est-ce qu'on parle de publicité Facebook à chaque semaine. Mais aujourd'hui, non Antoine, ce ne sera pas que de publicité Facebook qu'on va parler, ce ne sera pas que des nouveautés avec la plateforme Meta, mais on va parler de commerce en ligne avec un projet qui me tient grandement à cœur. Parce que pour vous donner un petit peu de contexte aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, chez Pure Commerce, on aime avoir une approche de terrain. On aime se mettre dans la peau de nos clients. On aime comprendre quelle est la réalité d'un propriétaire d'entreprise et dans le cas ici, d'un propriétaire d'une boutique en ligne. Donc, pour vous donner un petit peu d'historique sur où on s'en va aujourd'hui avec la conversation, eh bien, très simplement, en janvier dernier, on a fait l'acquisition d'une organisation, d'une boutique en ligne, où l'idée à la base était la suivante. Bien entendu, on espère que ce soit une entreprise qui va avoir du succès dans le futur, mais on a acheté cette organisation-là surtout pour faire le maximum de tests possibles au niveau du email marketing, au niveau de la publicité Google, au niveau de la publicité Facebook, au niveau de la publicité TikTok, au niveau des contenus organiques et en faire un laboratoire de tests pour notre audience sur Commercialite. Et aujourd'hui, on veut vous parler d'un peu comment on voit le projet pour le futur. Parce que les premiers mois ont surtout été pour remettre en place l'organisation. Il y avait des changements opérationnels à faire. Et là, on a vraiment commencé dans les derniers jours à se remettre à fond la caisse, on pourrait dire ça comme ça, à commercialiser cette organisation-là. Et on veut en faire un épisode mensuel dans lequel on va vous documenter tous les avancements, tous les bons coups, tous les échecs qu'on va rencontrer avec ce projet-là. Antoine, est-ce que ça t'excite de parler de tout ça avec notre audience aujourd'hui?
Bah écoute, c'est excitant. Il faut dire les choses. En fait, l'objectif de cet épisode et du coup de cette série d'épisodes, je pense qu'on est d'accord ensemble, Antoine, c'est d'être très, très, très transparent avec vous sur ce qu'on arrive à faire, sur quels seront nos échecs, quelles seront nos réussites, parce qu'effectivement, tu as mentionné le fait que c'était une entreprise qu'on avait acquis pour faire des tests, mais là, en l'occurrence, au moment zéro, au moment M où on se parle, cette entreprise, pour l'instant, c'est un peu la patate chaude. Voilà, on va dire les termes. C'est un peu la patate chaude qu'on récupère et là, il faut qu'on parvienne déjà à un état qui est stable.
Exact. Parce que effectivement, on va essayer de vous donner un peu de vision sur tout ce qui s'est déroulé là dans les derniers mois. On a fait l'acquisition de cette entreprise-là et cette organisation-là avait connu un Q4 totalement formidable, des 50, 60, 70 000 $ de vente par mois, mais avec une profitabilité qui était très, très limitée. Et là, du jour au lendemain, littéralement, l'entreprise a arrêté de faire des ventes. C'est une organisation qui est très orientée vers le trafic payant, qui n'a pas tellement une grande empreinte organique. Donc, c'était ultimement une entreprise qui était reliée à des bons tunnels de vente. Et quand les tunnels de vente ont arrêté de fonctionner, eh bien, les ventes ont arrêté de fonctionner. Et c'est un petit peu à ce moment-là que nous, on a vu une opportunité au niveau de la transaction. L'organisation n'était pas excessivement dispendieuse pour les raisons que je viens de vous évoquer. Donc, on a été capable de mettre la main dessus. Mais là, effectivement, relancer cette organisation-là prend du temps. Et présentement, on est à l'aise de vous dire qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore la formule. On n'a pas encore des campagnes excessivement rentables, mais on veut partager tout de même, documenter ce processus-là avec vous pour vous dire où est-ce qu'on va s'enligner, où est-ce qu'on va s'en aller. Et aujourd'hui, le 8 juillet 2022, est le premier épisode qu'on fait, qu'on enregistre autour de cette entreprise-là. Et à chaque mois, on va vous dire l'évolution des ventes. Et à chaque mois, on va vous dire l'évolution des ventes. Et là, ce mois-ci, on se doit vraiment de commencer à augmenter un petit peu le volume de vente. Et peut-être, Antoine, je sais que tu avais quelques statistiques, quelques recherches que tu avais faites aujourd'hui sur l'entreprise. Peut-être si tu veux partager un petit peu plus d'informations avec notre audience.
Exactement. Bah, en fait, je vais vous parler de 2021. Lorsque ce e-commerce était en activité, on avait enregistré à peu près 318 700 dollars. De vente. Sur le Ads Manager, on avait 137 200 dollars dépensés en publicité Facebook. Donc, on avait un ROI d'à peu près 2.3. Maintenant, depuis janvier 2022, je regarde les ventes. On est à 12 962 dollars de vente pour 7 500 dépensés sur Facebook Ads. Donc, c'est 1.72 de ROI. Le point que vous comprenez tout de suite, c'est que justement parce que c'est beaucoup plus difficile, on a drastiquement diminué les budgets. Et en fait, à l'heure actuelle, on est dans une passe où on teste des choses avec des petits budgets. Alors maintenant qu'on lance officiellement ce concept, on va pouvoir commencer à dépenser un peu plus et tester des choses assez rapidement pour prendre des décisions. Parce que je pense que toi et moi, on le sait très bien, lorsqu'on a des petits budgets et qu'il se passe pas grand chose, bah en fait, on perd de l'argent dans le sens où on perd du temps, en fait. C'est ça, c'est que au lieu de savoir en deux jours si telle ou telle approche est recevable ou pas, eh ben, on va mettre 7 jours ou peut-être même 10. Et finalement, on perd beaucoup plus que si on avait mis un gros budget dès le début. Donc, exact. Ça, c'est les petits chiffres sur la santé, entre guillemets, financière de cette entreprise. Maintenant, quand j'ai analysé le compte, voici ce que j'ai pu voir. Déjà, il y a une difficulté évidente à commercialiser le meilleur vendeur du site. C'est-à-dire que on est sur des produits par exemple des luminaires ou des accessoires pour la maison, et on avait un produit qui se vendait très très bien, qui d'ailleurs expliquait ses excellents résultats en 2021, qui aujourd'hui n'arrive plus du tout à se vendre. Donc on a déjà ce problème. Ensuite, on a un taux de retour client qui est extrêmement bas, on est autour des 1,2%. Et pour avoir un annonceur, un client qui lui a un produit, par exemple, qui a un one product offer, dans le sens où il n'a qu'un seul produit à vendre, eh bien, cet annonceur-là a un taux de retour client qui est à 4%, ce qui est pas logique dans le sens où nous, on a plein de produits à proposer, mais pourtant les gens achètent juste le meilleur vendeur et ne reviennent jamais. Donc là encore, on a un manque à gagner, parce que vous le savez très bien, les achats les moins chers, c'est toujours ceux qui proviennent de vos clients existants. Donc c'est le fait de relancer les clients pour qu'ils reviennent acheter. Ensuite, j'ai pu voir que l'emailing nous servait à closer 30% des achats au minimum, et j'estime que spontanément, je trouve ça assez haut, qu'on ait autant besoin de l'emailing pour un achat spontané, en fait, parce que faut le dire aussi, on n'est pas sur des produits qui sont excessivement chers, on est je pense sur des produits qui sont un peu des produits plaisir, pas des produits qu'on exact. Cherche nécessairement, mais lorsqu'on tombe dessus,
une commodité,
commodité.
Ben c'est, puis, on va le dire, un peu, c'est des lampes et des produits pour la maison qu'on vend avec cette entreprise là une organisation qui est en 3PL, donc on a tout notre inventaire de produits est dans un 3PL présentement. qu'on fait livrer continuellement à nos clients. Donc, ça, c'est important de comprendre aussi la structure. Et peut-être aussi pour donner un peu de contexte. Bon, t'as parlé de publicité, t'as parlé un petit peu d'emailing, mais j'aimerais aussi expliquer la reprise de ce compte-là. Donc, nous, on a repris le compte. On a fait l'acquisition finale fin janvier, début février. Là. Donc, au final, je crois qu'on a repris le compte à la mi-février. Et de janvier à février, il n'y avait plus de publicité. Il n'y avait absolument rien qui tournait. Il n'y avait plus de vente. Et il n'y avait pas non plus d'architecture mailing. Donc, ça, c'est un truc qu'on est également en train de mettre en place. On vient de mettre en place, et ça peut être bien de notre audience de comprendre de comment que nous, on s'y prend chez Pure Commerce qu'on veut retravailler avec un compte. De un, on veut bâtir le squelette complet des flows mailing. Les flows de panier abandonné, les flows de série de bienvenue, les flows de browse abandonment, les flows d'upsell, les flows de réengagement quand quelqu'un a déjà acheté dans le passé, mais qui n'a plus acheté nos produits depuis un bout de temps. Donc, on a tout mis cette architecture-là. Et déjà là, on voit qu'il y a un petit peu d'amélioration. Et là, ce qu'on est en train de mettre en place aussi, ça va être la structure d'envoi d'infolettes. Parce que oui, tu as mentionné qu'il y avait quand même beaucoup de ventes qui se sont faites avec le mailing, mais on le voit également, et ça, je pense que c'est un point qui est important de mentionner, les ventes qui viennent avec le mailing sont intimement reliées avec le trafic qu'on a amené avec nos canaux payants. Les deux fonctionnent très, très bien ensemble, et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une cohésion entre les canaux marketing ici. Donc là, on a bâti les flows. On commence les infolettes au mois de juillet, parce que là, c'est ça le but. On veut vous documenter ce qu'on fait. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est le squelette. On a relancé les publicités et là, on est en train de bâtir les infolettres. Et là, notre gros défi pour le mois, et j'aimerais aussi t'entendre là-dessus, Antoine, c'est de trouver au moins un tunnel de vente qui est fonctionnel. Parce que là, on en teste plusieurs. On a dans ce qu'on va faire, dans les tests qu'on va vous documenter dans les prochaines semaines, un test qu'on fait au niveau d'un quiz. On est également en train de, on a un test qu'on est en train de faire au niveau d'une page de vente. On est en train de tester énormément de publicités qui vont sortir. Et ça, je pense que ça va être des informations assez intéressantes, Antoine, à partager avec notre audience ces prochains tests-là.
Mais alors, deux choses. La première, tu as parlé d'emailing et du fait que c'est important dans un e-commerce et je suis 100% d'accord. Je vais faire une digression et par exemple, revenir à des moments où je faisais des audits pour des prospects qui voulaient passer clients à l'agence. Et je notais toujours que, alors il y avait un grand effort sur la publicité payante, mais très peu sur l'emailing. Il faut comprendre que votre site e-commerce, c'est comme une passoire. Vous envoyez du trafic, vous envoyez de l'eau dans cette passoire. Maintenant, le problème, c'est que si vous n'avez pas d'emailing, imaginez votre passoire, les trous sont énormes parce que ça convertit pas autant que s'il y avait de l'emailing. Plus vous rajoutez de l'emailing, plus vous faites attention à vos séquences et à vos flows justement de relance pour des paniers abandonnés, de relance pour justement, par exemple, il y a un nouveau produit qui entre en jeu, donc faire des infolettres. Plus vous en ajoutez, plus vous rétrécissez ces trous de passoire pour gagner beaucoup plus de rétention. Donc ça, c'est voilà, c'était la petite image à côté. Maintenant, c'est intéressant parce que tu as parlé effectivement d'une approche qu'on a testée avec le quiz. Et j'ai regardé ce matin même les 30 derniers jours, quels étaient nos clients et comment ça s'était passé, pourquoi ils étaient passés clients. Alors, de toute façon, ils viennent tous de Facebook, ça c'est certain, mais j'ai pu noter que très peu venait du quiz. Donc en fait, finalement, déjà je peux te répondre sur ce point. Le quiz n'a pas été un game changer là-dessus. On a aussi testé une page de vente qui était différente. Ça, on vous le mentionne, mais par exemple, on envoie généralement sur un site e-commerce, sauf que le site e-commerce, lorsqu'on envoie sur une page de produit, bah il y a plein de boutons à côté. Il y a plein de possibilités en fait de s'échapper pour la personne qui visite le et c'est pour cette raison qu'on a testé notamment une page de vente dédiée sur laquelle il y a très peu de boutons, il y a juste le produit, ajout au panier et basta en fait. C'est vous pouvez que avancer de façon linéaire dans une page de vente. Donc c'est ça qui était intéressant de tester. Et là encore, quand je regarde les retours sur investissement, malgré le fait qu'on ait eu très peu de budget, je n'estime pas que ça ait autant fonctionné que ce qu'on aurait pu espérer. Maintenant, si tu veux qu'on parle un peu des stratégies qu'on voudrait mettre en place, en tout cas à court terme, moi j'ai noté trois choses. La première, c'est tester des hooks complètement différents sur les produits. Faut comprendre que quand vous avez quelque chose qui a fonctionné par le passé, qui a un peu moins fonctionné, vous pouvez faire ce qu'on appelle des déclinaisons publicitaires, c'est-à-dire réutiliser les meilleures publicités, les relancer. À côté de ça, essayer de faire des déclinaisons en testant peut-être les trois premières secondes de votre publicité, vous les testez différemment, mais en tout cas, vous restez dans ce même schéma. Je pars du principe que ce schéma ne fonctionne plus et qu'il faut tester une nouvelle approche. Donc, là par exemple, et on va regarder les publicités après après le podcast, mais ça va être de tester pas le côté, par exemple, la lampe, elle est belle ou quelque chose comme ça. Non, c'est par exemple de jouer vraiment sur, ah tiens, cette lumière de lampe, elle est beaucoup moins agressive qu'une lampe de chevet normale. Donc, c'est beaucoup moins douloureux d'allumer votre lampe, par exemple, quand vous êtes en pleine nuit. Voilà, ça va être de tester des petites approches, des hooks un petit peu plus nichés pour voir si déjà ça crée un peu plus de réaction au niveau de la publicité Facebook. Ensuite, t'as parlé de landing page dédiée, mais je pense qu'on va la retester. On va retester une landing page dédiée, mais cette fois, on va aller sur une niche. Par exemple, je suis allé voir les commentaires sur les publicités Facebook. Et très régulièrement, je voyais des commentaires qui disaient « Ah tiens, cette lampe, elle est parfaite pour le camping ou pour le outdoor. » Et ça, c'était quelque chose, on n'y avait jamais pensé. En fait, je pense, par exemple, ça pourrait être intéressant de avoir une landing page dédiée, des publicités dédiées sur ce hook pour dire « Cette lampe, elle vous accompagne parfaitement dans votre sac, elle peut s'accrocher facilement à une sangle, elle peut créer de la lumière sur autour d'un feu ou de façon circulaire dans une tente par exemple. » Donc il y a tout un tas de nouvelles utilisations, d'un nouveau décor dans laquelle cette lampe peut apparaître qu'on pourrait tester justement dans une landing page dédiée. Et effectivement, comme tu as dit aussi, de mettre le curseur un peu plus fort sur tout ce qui est flow emailing et infolettre.
Donc vous voyez, on a du pain sur la planche. Et là présentement, notre objectif, en toute transparence avec vous, c'est avant d'attaquer d'autres canaux de trafic. Donc on risque dans les 2 à 3 prochains mois d'attaquer d'autres canaux de trafic. Donc la publicité sur Google, la publicité sur les canaux de Google, la publicité également sur TikTok. On veut, parce que c'est notre expertise numéro 1, soyons honnêtes avec l'audience de Commerce Elite aujourd'hui, on veut vraiment avoir un tunnel fonctionnel avec la publicité Facebook, des créatifs fonctionnels. Donc ça, là, c'est l'objectif numéro 1. Tant qu'on n'a pas ça, on va pas passer au deuxième stade de commercialisation. Et là, on va avoir beaucoup de réponses parce que avec toutes les initiatives qu'Antoine vient de mentionner, ces initiatives-là vont être lancées dans les prochains jours. Donc moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'au prochain podcast, on soit capable de dire « Hey, on vous a dit qu'on ferait ça, les différentes publicités, les différents flows, les différentes infolettes, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? » Et en étant très transparent avec vous aujourd'hui, présentement, on tourne. Depuis que le brand a été vraiment repris là et qu'on a relancé un peu les publicités il y a à peu près une semaine de ça, on tourne entre 50 et 100 $ par jour de vente. C'est rien. Ce brand-là, on se doit de l'amener très rapidement aux alentours de 1000 à 2000 $ par jour minimum de vente. Donc, ça va prendre du travail. Ça va prendre clairement du travail, on le sait. Mais on veut vous montrer à quel point qu'on se rend vulnérable avec vous aujourd'hui et qu'on vous montre la vérité de tout ça. On veut prendre ce brand-là, on prend le pari parce qu'on a vu le potentiel qu'il y a eu dans le passé et on veut le remonter. Et là, on passe de 50 à 100 $ par jour à où serons-nous en août? Où serons-nous à l'automne? Parce que l'automne, c'est quand même une période un petit peu plus propice pour ces ventes-là. Et ça va être le but du podcast. Ça va être le but du podcast aujourd'hui. Ça va être le but du podcast dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de vous documenter tout ça. On prend l'engagement avec vous de vous faire un suivi une fois par mois. Et si ultimement les choses vont plus vite, peut-être qu'on va le passer à 2 fois par mois. Mais présentement, c'est l'objectif. On veut que sur Commerce Elite, on vous parle, que nous, chez Pure Commerce, on aide des clients. Effectivement, on aide beaucoup de clients, mais on veut également voir ce qu'on est capable de faire avec des brands qu'on achète. Donc, ça va être ça un peu l'évolution du podcast au cours des prochaines semaines. Je pense que ça va être très intéressant. Toute notre équipe est très enjouée à faire en sorte que l'entreprise fonctionne. Antoine, on a fait une bonne intro, on a mis la base. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour notre audience aujourd'hui avant que je te laisse filer?
Non, j'espère que ça va marcher vite. Ça va marcher vite, mais on va tout mettre en œuvre pour. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix.
Ça doit être fait.
On n'a plus le choix, Antoine.
Exactement, ça doit être fait.
C'est terminé.
Fantastique. Bon, Antoine Dalmas, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous pour les gens qui écoutent le podcast. Donc, pour les gens qui écoutent Commerce Elite, suivez l'aventure. Ça va être assez intéressant. Je pense que ça va donner des épisodes croustillants. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Elite.